Bien, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire sans les diaporamas. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir convié à débuter les travaux de cette journée. Donc, ce qui m'amène ici, c'est d'essayer de voir avec vous quels sont les enjeux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales à la lumière de la norme ISO 26000. Alors, je voudrais dire en préalable, oui, merci, c'est que depuis environ une dizaine d'années, nous vivons une époque paradoxale, puisqu'on n'a jamais autant parlé de responsabilité sociale des entreprises ou des organisations à travers des discours, des dispositifs, des pratiques et même des normes, sans savoir vraiment exactement de quoi on parlait. Et il existe en effet de multiples acceptions, de multiples définitions, mais on a rarement cherché à travers les mots, le sens profond des mots responsabilité sociale et entreprise. Et un autre paradoxe, c'est que l'économie sociale et solidaire, qui dit, à juste raison d'ailleurs, que c'est dans ses gènes et dans ses valeurs d'avoir les composantes d'une responsabilité sociale ou sociétale, n'a pas vraiment cherché, ou n'a pas voulu, ou n'a pas pu se doter d'un dispositif d'évaluation qui corresponde à ses propres critères, encore faut-il rappeler que, dès 1997, le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, CJDS, avait élaboré justement un outil d'évaluation en fonction des critères de l'économie sociale et solidaire. Alors les choses quand même évoluent. Elles évoluent du côté de l'économie sociale et solidaire, mais c'est vous qui le direz plus que moi. Et elles évoluent aussi d'une manière générale. Et c'est quand même assez surprenant qu'en l'espace de 12 mois, il y ait eu 4 dispositifs, ou 4 normes ou 4 textes essentiels qui sont parus. Au niveau de l'ONU, un texte qui fait suite au rapport qu'on a appelé rapport Ruggie sur les lignes directrices à l'égard des entreprises et des droits de l'homme. Un texte qui révisait les lignes directrices de l'OCDE à l'égard des entreprises multinationales. Tout récemment, le 25 octobre, une communication de la Commission européenne sur la responsabilité sociale des entreprises. Et puis, il y a maintenant pratiquement un an, les lignes directrices de l'ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est pourquoi, à mon avis, il faut non seulement s'intéresser à ces lignes directrices au 26000, mais pourquoi il faut s'y impliquer, et d'autre part, ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter à cette norme, enfin tout au moins à la discussion sur la responsabilité sociétale des organisations. Alors, rapidement, je ne vais pas évidemment vous décrire en détail ces lignes directrices, c'est une centaine de pages. Les grandes caractéristiques, c'est qu'elles sont relatives donc à la responsabilité sociétale des organisations, de manière générale, pas uniquement les entreprises. Elles sont destinées à encadrer les relations entre la société, de manière générale, et les organisations. Elles ont donc été publiées il y a un an, début novembre 2010. Après plus de 5 années de discussion et d'élaboration, pendant lesquelles, enfin, sur la fin, il y avait 90 pays participants, 60 au début, 90 à la fin, et ces pays participants étaient représentés par 6 catégories de parties prenantes: les entreprises, les gouvernements, les consommateurs, les travailleurs, syndicats de salariés, les ONG, et puis une catégorie qui était appelée autres, chercheurs, consultants. C'est dans cette catégorie que j'étais censé représenter, enfin, j'étais représenté dans la délégation française. Alors, c'est un texte, bien sûr, qui est d'application volontaire, comme tout texte de l'ISO, L'ISO, je rappelle que c'est l'Organisation mondiale de normalisation. C'est un texte qui énonce des principes et des recommandations et qui s'appuie sur des textes substantiels internationaux, c'est-à-dire des grands accords, les grandes conventions internationales, et j'en ai recensé à peu près 130 qui sont référencés dans le texte. C'est une démarche qui n'est pas certifiable, comme d'ailleurs la plupart des textes de l'ISO, contrairement à ce qu'on croit généralement. Et c'est un référentiel qui a été largement adopté, puisque il y a eu seulement 5 pays qui ont voté contre, les États-Unis, l'Inde, la Turquie, Cuba et le Luxembourg, seul pays européen à avoir voté contre. Et c'est un texte dont je vais vous rappeler d'abord la définition qui est donnée de la responsabilité sociétale. Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris la santé et au bien-être, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement, c'est-à-dire les accords et grandes conventions internationales. Ça va depuis la Déclaration des droits de l'homme au protocole de Kyoto, en passant par toute une série de textes internationaux plus précis. Et qui est, alors ça c'est une phrase qui est importante, la dernière phrase qui est importante, est intégrée dans l'ensemble de l'organisation et mise en œuvre dans ses relations. C'est-à-dire que la philanthropie, le mécénat ne sont pas considérés comme faisant partie de la responsabilité sociétale de l'organisation, même si le texte dit à un moment bon, c'est pas forcément mal de faire de la philanthropie, mais ça ne saurait exonérer l'organisation de ses responsabilités dans l'ensemble de son cœur de métier. Alors, il y a 7 principes qui sont énoncés dans ces lignes directrices. Alors, redevabilité, c'est un néologisme que nous avons créé avec l'accord de l'AFNOR, qui est la traduction en fait d'un terme anglo-américain qu'on ne savait pas trop comment traduire auparavant, qui est accountability, et qui veut dire que l'organisation se trouve de toute façon redevable envers la société du fait qu'elle utilise les ressources de toute nature qu'elle peut trouver dans la société ou dans son environnement naturel. La transparence, un comportement éthique, alors l'éthique étant définie par 3 critères, l'honnêteté, l'intégrité et l'équité. La reconnaissance des intérêts des parties prenantes, alors il y a une définition dans la norme de ce que sont les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les parties qui ont un intérêt en quelque sorte à l'activité et qui sont intéressées par ces prises de décision. Le respect du principe de l'égalité, alors ça peut paraître un peu étonnant effectivement que ça soit un principe, on devrait penser que ça va de soi, mais enfin ça l'est encore mieux en le disant. La prise en compte des normes internationales de comportement, donc tous les accords, grandes conventions internationales, et puis le respect des droits de l'homme. Alors, il y a 7 questions centrales qui sont abordées par ces lignes directrices. Alors, je vais commencer tout d'abord par la deuxième, le respect des droits de l'homme. Là, ils sont énoncés dans l'ordre dans lequel on le trouve dans le texte. Le respect des droits de l'homme, les questions relatives aux relations et aux conditions de travail, l'environnement, tout ce qui est respect, précautions à prendre à l'égard de l'environnement, la loyauté des pratiques, en particulier dans le monde des affaires, tout ce qui concerne les questions de corruption, les questions de concurrence déloyale, le respect des consommateurs, et puis communauté, développement local, c'est-à-dire tout ce qui est l'implication en quelque sorte de l'organisation dans son environnement le plus proche, quoi. Et ces 6 questions sont reliées par la gouvernance de l'organisation. et dans une démarche qui se veut holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire qu'il ne saurait être question de découper en quelque sorte ces questions, de n'en prendre que quelques-unes en disant, bon, on ne s'occupe pas des autres. Le texte reconnaît bien sûr qu'il y a des priorités, que c'est à l'organisation de définir ses priorités, mais que de toute façon, il n'est pas question de négliger une des questions par rapport aux autres. Et ces sept questions centrales sont donc déclinées en 36 domaines d'action. Alors, les points clés, à mon avis, de l'ISO 26000, c'est d'une part l'accent qui est mis sur la responsabilité vis-à-vis des impacts des décisions et des activités. Il a eu la satisfaction de voir que justement dans la communication de la Commission européenne il y a quelques jours, on définissait effectivement la responsabilité de l'organisation par rapport aux effets. En fait, c'est la traduction de impact en anglais, donc c'est à peu près le même mot, des décisions, des activités de l'entreprise. Le développement durable est présenté comme un objectif transversal. Ça n'a pas été une mince affaire, je prie de le croire, de faire accepter cela par les anglo-saxons, notamment par les américains, mais on y est arrivé quand même, et donc c'est pas une question centrale, vous voyez, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des préoccupations de l'organisation. Autre point important, c'est donc sur lequel pratiquement il y avait un grand accord, c'est la nécessité d'identifier les parties prenantes de l'organisation et de dialoguer avec elles. Et puis enfin, dernier point qui passe peut-être un peu inaperçu, mais sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est le devoir de vigilance dans la sphère d'influence. Alors en anglais, c'est due diligence. On l'a traduit dans la version française de l'ISO 26000 par devoir de diligence. Vous le trouverez sous le terme de diligence raisonnée dans les textes des Nations Unies. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce devoir de vigilance, de veille, s'exerce non seulement à l'égard des activités de l'organisation elle-même, mais de ce qui est appelé sa sphère d'influence. Alors, si on prend un exemple classique dans le domaine économique, ça va être par exemple de la part d'une société mère de s'inquiéter d'être responsable des agissements de ses filiales, et même au-delà des sous-traitants qu'elle peut avoir sous sa, en quelque sorte, avec lesquels elle a un impact important. Donc c'est quelque chose qui est assez important et qui est évidemment à méditer dans ce texte. Alors pourquoi prendre en considération l'ISO 26000? Il y a à mon avis, alors de manière générale, hein, pas uniquement pour l'économie sociale et solidaire, d'abord parce que c'est le premier document qui détermine des principes, des recommandations. Vous ne trouverez pas dans le texte des choses qui sont directement opérationnelles. Par exemple, vous ne trouverez pas des indicateurs, vous ne trouverez pas des critères. Mais il y a tout un chapitre, le dernier en particulier, qui donne des principes d'opérationnalisation. Donc c'est le premier document qui détermine des principes et des recommandations qui sont, dans l'ensemble, assez cohérentes et exhaustives. Imaginez quand même que tout cela est le résultat d'un compromis, hein, entre plusieurs dizaines de pays représentés par chacun par 6 catégories de parties prenantes. Vous pouvez imaginer quand même pendant 5 ans toutes les discussions, les négociations qu'il a fallu faire. Et c'est donc un document de portée universelle. C'est un document qui a acquis une légitimité mondiale, puisque aujourd'hui, les organisations internationales, que ce soit l'ONU, l'OCDE, l'OIT, le reconnaissent comme un des documents fondamentaux dans le domaine de la responsabilité sociétale. C'est également un document qui a été élaboré selon un mode inédit de forum multipartite de négociation. À ma connaissance, j'ai interrogé des spécialistes de droit international qui m'ont confirmé dans cette idée que c'est la première fois dans l'histoire des relations internationales qu'un texte comme celui-là est élaboré par 6 catégories de parties prenantes avec un nombre assez important de pays qui ont participé. Et c'est donc finalement un document qui est de portée sociétale. C'est pas un document uniquement managérial. Bien sûr, il est destiné à servir aux instances de direction des organisations, mais comme il a été élaboré avec d'autres parties prenantes que les entreprises, notamment les consommateurs, les syndicats de salariés, les ONG, eh bien, c'est un document qui a une portée sociétale. Donc, à mon sens, c'est aujourd'hui une référence incontournable. Et pour donner un exemple, lors de la dernière réunion que nous avons eue à la FNOR pour ce qui concerne le groupe français de discussion et de suivi de ce texte, il a été question qu'il y ait une déclinaison qui soit faite pour les collectivités territoriales. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, je crois que pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas encore, les travaux n'ont pas encore démarré, mais c'est dans l'air. Donc, c'est évidemment quelque chose à suivre pour ceux qui, parmi vous, représentent des collectivités territoriales. Quelle attitude de l'économie sociale et solidaire face à l'ISO 26000? Alors là, je vous livre évidemment des réflexions tout à fait personnelles. Je vous interpelle un peu sur les questions que je me pose moi-même. Je pense que, il ne faut pas, je le dirais, quelque auditoire que ce soit, ne pas s'isoler du mouvement international de la RSE, même s'il est notoirement ambigu. Hein. Je le disais tout à l'heure, on ne sait pas très bien ce que c'est que ce terme de RSE, mais on commence à voir justement à travers ces textes. Hein. Qui ont été publiés au cours de ces 12 derniers mois, on commence à voir, c'est ce qui sait quand même de quoi on parle. Et même si ça reste évidemment très ambigu. Donc je pense qu'il faut être dans le mouvement. Alors dans le cas d'ISO 26000, c'est une référence universelle donc qui est destinée à être appliquée par toutes les organisations, à l'exception des gouvernements, mais ça peut être éventuellement des administrations publiques. Et je pense qu'il faut accepter d'être jaugé, d'être évalué selon des principes universels. D'autant plus que, quand on examine bien le texte, il n'y a pas de contradiction entre, les principes de l'ISO 26000 et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je dirais bien au contraire, elle conforte en quelque sorte ces valeurs et ISO 26000 peut être une source d'inspiration pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Alors, cela dit, l'ESS peut contribuer à enrichir ISO 26000 de différentes manières. D'abord parce que c'est un texte qui a des faiblesses. Et il y a un certain nombre de points faibles qui seront peut-être comblés d'ici sa prochaine révision, qui est prévue dans 3 ans maintenant. Il n'y a pas dans le texte de valeur, il n'y a pas de critères qui sont énoncés. C'est-à-dire que l'ISO 26000, la grille en quelque sorte, les principes qu'offre ISO 26000, ne portent pas sur ce qu'on pourrait appeler la qualité sociale de l'organisme. Enfin, disons, le fondement même de l'activité. C'est-à-dire que, bon, on va prendre un exemple un peu trivial, les industries d'armement peuvent être très bien, ou des activités qui seraient à la limite de la légalité, peuvent très bien être appréciées en fonction des normes ISO 26000, de normes ISO 26000. Hein. Donc ce n'est pas l'activité en elle-même qui est jugée. Donc il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de critère. Il n'y a pas de questionnement non plus sur l'utilité sociale des activités. Et c'est là où, justement, il peut y avoir un apport important de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas non plus de véritable questionnement sur l'identification des enjeux d'intérêt commun, bien que le texte en parle un peu, mais insuffisamment à mon goût. Et puis, il ne fait pas non plus suffisamment de, il ne pose pas suffisamment de questions sur les dilemmes hein, qui existent inexorablement lorsqu'on veut chercher à concilier des préoccupations économiques, écologiques et sociales. Et il ne cherche pas non plus à trouver des synergies possibles entre ces différentes préoccupations. Alors, cela m'amène en quelque sorte à conclure en vous renvoyant un certain nombre de questions. J'ai lu évidemment quelques textes sur l'utilité sociale et je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui différencie l'utilité sociale de la responsabilité sociale? Il y a tellement, me semble-t-il, de convergence entre les deux notions que je ne vois pas toujours la différence. Et je me suis demandé si c'était en fait un sous-ensemble, c'est-à-dire est-ce que l'utilité sociale est un sous-ensemble de la responsabilité sociale, quelque chose qui devrait exister à l'intérieur de la responsabilité sociale, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors? Bon, première question. La deuxième question, j'imagine bien que ce que vous attendez, enfin que ce soit de la part des entreprises ou des collectivités, qu'est-ce qui peut différencier, qu'est-ce qui peut valoriser l'économie sociale et solidaire en regard des principes énoncés par l'ISO 26000? Et donc là, effectivement, si des entreprises de l'économie sociale se lancent dans des démarches de ISO 26000, elles ont évidemment à essayer de voir qu'est-ce qui permet de valoriser, de différencier par rapport à d'autres types d'organisations. Et puis, autre ensemble de questions, faut-il construire un concept d'unité sociale ou faire valoir une spécificité de l'économie sociale et solidaire en regard de l'ISO 26000? Et finalement, est-ce que ça ne revient pas au même? Bon, voilà, toutes ces questions que je me pose, et parce que je pense que, encore une fois, d'une part, les collectivités territoriales seront probablement amenées à se positionner par rapport à ISO 26000, enfin à se positionner, c'est-à-dire à s'engager dans des démarches s'inspirant d'ISO 26000, et que d'autre part, je pense que l'économie sociale et solidaire a effectivement intérêt à rentrer dans ce débat, dans ces démarches qui peuvent, dans lesquelles elle n'a pas qu'elle n'a pas à craindre parce que précisément elle peut y retrouver des principes et apporter en fait les valeurs du secteur. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à entendre vos questions ou vos réponses à mes questions. J'ajoute une petite chose. Le conseil, vous savez peut-être que le Conseil régional d'Île-de-France a mis en chantier une réflexion concernant l'élaboration de critères environnementaux et sociaux, de telle sorte de pouvoir évaluer des entreprises par rapport, si j'ai bien compris, à l'éventualité d'attribution d'aides publiques. Donc voilà encore un des chantiers qui converge en quelque sorte avec toutes ces préoccupations. Exact. Bien sûr. Non, non, mais tout à fait d'accord. J'aurais dû ajouter, il n'y a pas de valeur autre que celles qui sont énoncées, enfin qui sont sous-jacentes, implicites, dans les textes fondamentaux, les 130, les quelques 130 textes internationaux qui sont référencés dans la norme. Hein. Oui, absolument. Bah écoutez, vous pouvez le remplacer par global, hein. Oui, non, mais ou démarche globale, si vous voulez. C'est-à-dire, non, l'idée, c'est que, comme je disais, c'est que vous avez six questions centrales. Bon, ça a été appelé comme ça, on pourrait éventuellement l'appeler autrement, mais et que ces questions, on pourrait les appeler des domaines aussi, hein, et que ces six domaines, en fait, sont reliés entre eux et qu'ils interagissent, hein. Et que par conséquent, on ne peut pas les isoler les uns des autres. Et ce qui permet de les relier, c'est précisément le septième axe, c'est-à-dire la gouvernance de l'organisation, quoi. C'est ça que veut dire le texte global. C'est-à-dire de pas. Parce qu'il y a toujours une tendance, quand on parle de responsabilité sociale ou sociétale, de dire, bon, on va faire un petit peu ce qui nous intéresse, bon, l'aspect social proprement dit, les relations employeur-salarié ou l'environnement, en oubliant un petit peu les autres domaines, quoi. Oui. Moi, j'ai effectivement regretté que. Enfin, j'ai participé, j'étais membre de la délégation française aux négociations internationales, mais on avait en France ce que la FNOR appelle un groupe miroir, hein, c'est-à-dire dans lequel il y avait une permanence plusieurs dizaines de personnes représentant un petit peu toutes les forces vives du pays, quoi, non seulement au niveau des entreprises, mais au niveau des. Il y avait très peu de collectivités territoriales aussi. Pratiquement pas. Mais il n'y avait pas de représentant de l'économie sociale et solidaire. Et ça, j'ai bien regretté parce que je pense que. Alors, il est peut-être pas trop tard, hein. Il y a encore chaque fois que je rencontre des personnalités de l'économie sociale et solidaire, je les invite à rejoindre effectivement ce groupe de travail à la FNOR parce que on continuera à travers les retours d'expérience de réfléchir sur la révision de la norme qui aura lieu dans 3 ans maintenant. Mais effectivement, je crois qu'il faut maintenant rapprocher les. Alors, c'est pas uniquement les entreprises. Hein. Enfin, c'est que encore une fois, il y avait bon, pas tellement d'ONG, mais enfin, les syndicats de salariés étaient là, étaient présents, et puis le gouvernement. Parce que c'est quand même quelque chose. C'est tout à fait inédit hein, dans le cadre d'une procédure, d'un processus d'élaboration d'une norme. À l'ISO, les gouvernements ne sont pas présents. C'est le seul cas, c'est un précédent. Hein. Et moi, j'ai dit les deux, hein. J'ai dit que effectivement, l'économie sociale et solidaire avait des choses à apporter. Je vous ai donné quelques exemples à ISO 26000, mais je suis prêt à prendre le pari, si on en fait l'expérience, que l'inverse peut être vrai également. Hein. Enfin, ça, c'est l'expérience qui nous le dira. Alors, tout à fait d'accord sur le fait que il n'y a pas dans le texte de choses sur la répartition des richesses. Donc ça, c'est une des faiblesses. Je l'ajouterai à mon diapo. En revanche, alors si vous qualifiez, c'est ISO 26000 que vous qualifiez de démarche technocratique ? Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dans la façon, alors c'est vrai que les consultants ont eu un rôle essentiel dans l'élaboration, que ce soit dans beaucoup de délégations nationales, le poids des consultants était important. Mais le fait qu'il y avait les gouvernements, les consommateurs, les syndicats, les ONG, etc., ne permet pas de dire que c'est une démarche technocratique. C'est je pense, le premier forum multipartite, hein, ou forum hybride, pour dire comme Calon Latour, de cette ampleur internationale, voire mondiale. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est un point important, peut-être le point fondamental, et qu'il faudra le poser. À l'avenir, il faudra le poser. Je ne suis pas sûr que, compte tenu de la composition, la diversité des gens qui participent à cette élaboration, ce soit possible, effectivement, de le faire. Mais il faut, ça n'empêche pas qu'il faut poser la question, certains. 100 €, hein? 100 €. 100 €. Pour acheter la... Oui, mais il faut quand même distinguer deux choses. Bon, effectivement, pour avoir le texte lui-même, il faut débourser 100 €. Bon, alors, on a essayé de que ce soit gratuit. On s'est un peu battu avec l'ISO là-dessus. L'ISO a été intraitable. Bon, ils ont leur modèle, ils ont leur business model. Et il faut, ils n'ont rien voulu savoir. Alors, après, vous parlez, c'est pas de la certification, c'est de l'évaluation, hein. Bon, AFAC. Voilà, mais rien n'oblige les organisations à faire une évaluation par un organisme, que ce soit la fac ou que ce soit Vigéo, ou que ce soit SGS, Bureau Veritas, etc. Il y en a quantité aujourd'hui qui sont sur les rangs. On peut très bien entrer dans une démarche ISO 26000, comme le font déjà un certain nombre d'entreprises que je connais, sans avoir du tout l'intention de demander une labellisation AFAC, puisqu'en fait ça revient à ça. AFAC va délivrer des étiquettes avec 4 degrés de maturité en fonction de l'avancement dans la démarche, hein. Ça, les entreprises qui veulent avoir cette reconnaissance, bon, elles le payent, effectivement, mais d'autres peuvent très bien le faire sans avoir, faire la démarche sans avoir besoin de cette reconnaissance. Je sais pas, faut voir. En tout cas, c'est une question intéressante. Moi, je serais pour. Je serais pour. Faudrait voir, faut discuter avec la FNOR si c'est possible. Je sais pas que ça.
Il y a 3 mains qui restent levées.
Alors, rapidement, la différence entre social et sociétal, c'est un vieux débat sémantique. En anglais, il n'y a pas de problème, parce que je vous rappelle que la norme a été élaborée entièrement en anglais, on a dû faire une traduction en français. En anglais, c'est social. Pour les anglo-saxons, social, ça comprend tout, hein. C'est pas uniquement les relations employeur-salarié, enfin, le sens restreint en français, enfin, un des sens en français, ça comprend l'ensemble des domaines qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, au moment où, quand il a fallu traduire la norme en français, on a eu ce débat. Je faisais partie du groupe de traduction et j'étais favorable, avec beaucoup d'autres, pour traduire le social anglais par social en français. Parce que vous prenez n'importe quel dictionnaire, j'en ai fait l'expérience, le premier sens du mot social en français, c'est ce qui concerne la société. C'est tous les aspects qui concernent la société, donc ça correspondait bien. Mais finalement, on a été battu et la FNOR a décidé de traduire ça par sociétal. Ce qui est une aberration, si on regarde bien les choses, parce que prenez un dictionnaire sociétal, c'est précisément tout ce qui concerne la société, à l'exclusion de tout ce qui peut être interne à une organisation. Hein, donc ça exclurait en fait le chapitre relation du travail, hein, ce qui est évidemment absurde. Voilà pour répondre à votre question. Alors sur le bilan sociétal, ben, effectivement, on a des vieux souvenirs avec Michel Adam. Je crois. Alors moi j'ai effectivement, dès que avant même que la norme soit sortie, j'ai alerté le CJDES, en tout cas notre vieil ami Gérard Leseul, en disant il faudrait quand même que bon vous essayiez de voir comment on peut pas réinsérer justement le bilan sociétal dans ce processus, etc. Bon, j'ai pas encore eu vraiment de réponse, mais je pense qu'effectivement il faudrait le faire. Et ça m'amène à répondre à votre dernière question. C'est vrai que si on s'empare, enfin si le secteur de l'économie sociale et solidaire décide de s'emparer de la norme ISO 26000, alors moi je vous le dis, je suis partant pour voir avec vous comment on peut s'y prendre et vous pouvez compter sur moi et d'autres probablement pour vous accompagner dans ce type de travail.